Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Demain soir, à l'hôtel Salomon de Rothschild à Paris, seront dispersés sous le marteau de Maître Cornette de Saint-Cyr une collection de lettres, d'autographes, de dessins et de souvenirs intimes de Sacha Guitry. Une belle occasion pour Franck Ferrand de revenir sur la vie du roi de Paris sur Europe 1 aujourd'hui. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Nous allons en effet revenir sur cette vie hors du commun, mais sous un angle intime, à l'instar de la belle collection qui va être dispersée.
Et vous allez évoquer Sacha Guitry à travers ses différentes épouses.
Elles étaient 5, certaines célèbres comme Yvonne Printemps, d'autres beaucoup plus effacées comme Geneviève de Séréville. Je vous propose de mieux faire connaissance avec elle et ce sera une occasion de refaire connaissance avec lui.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Sa voix, ses mots, ses phrases continuent de nous surprendre par leur esprit et leur impertinence. Ses pièces sont toujours là, bien sûr, elles ne quittent jamais l'affiche. Et mieux que cela, le souvenir de l'homme lui-même ressurgit, on peut dire, à tout bout de champ. Alors j'ai eu l'occasion déjà à ce micro, notamment en compagnie de Francis Huster, puis de Jean Piat, de vous dire toute ma tendresse pour ce fascinant personnage. Sacha Guitry n'était pas seulement le maître du boulevard et le roi de Paris. Pendant un demi-siècle, il aura incarné à la quintessence, cet esprit français que personne jamais ne pourra délocaliser, si je puis dire. Lui rendre hommage, ce n'est pas seulement se faire plaisir en évoquant quelques belles pages du siècle passé, c'est aussi contribuer au rayonnement d'une certaine façon de vivre, de penser, d'être. Sacha Guitry, ce sont 32 livres, 16 préfaces, plus de 900 articles de presse, 268 émissions de radio, et oui, et plus quelques-unes à la télévision, 30 disques, 36 films et bien sûr avant tout 124 pièces de théâtre. Du reste, rien que prononcer son nom, c'est être au théâtre. On est devant ce sacro-saint rideau de velours rouge qui se met à frémir à hauteur de l'œilleton. On est dans cette salle qui bruisse encore comme une ruche et qui tout à l'heure explosera de rire par saccades. Sacha Guitry aura passé sa vie à jouer la comédie à la ville comme à la scène. On peut dire qu'il a joué sa vie, une vie qui pourrait de loin ressembler à un vaudeville mais qui en fait est un drame, un grand et beau drame où les seuls de taille à lui donner vraiment la réplique sont son père, bien entendu, le grand acteur Lucien Guitry, on va y revenir dans un instant, et ses 5 épouses. Et c'est comme ça que m'est venue cette idée. 5 épouses, je me suis dit, ça va faire 5 actes. Nous allons donc évoquer ensemble Sacha à travers les 5 femmes de sa vie. La première s'appelait Charlotte Lizès, on y vient dans un instant. On va, pour vous, frapper les 3 coups.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Pour une émission consacrée aujourd'hui, Franck, sur Europe 1, à Sacha Guitry. Oui, mais à Sacha Guitry intime.
Eh oui, c'est un roi soleil, écrivait Pierre Marcabru dans le Figaro littéraire il y a une quinzaine d'années. Il règne, il trône, à la ville comme à la scène, il est en représentation. Il ne laisse rien dans l'ombre, ni ses conquêtes, ni ses défaites. Il bénit de sa main d'évêque ses admirateurs assemblés. Il collectionne les tableaux comme les succès. Il se marie sans cesse. Comme Barbe Bleue, ses femmes le quittent et saluent sous les applaudissements du public. Il tire une comédie de sa vie privée. Là est peut-être finalement le secret de cette vie conjugale à rebondissement d'un Sacha Guitry qui mettait en scène ses propres déboires conjugaux et qui ensuite, dans la vie, menait ses affaires exactement comme on les mène sur scène. J'ai bien sûr demandé à Thierry Geffrotin d'être avec nous. Vous connaissez le monsieur culture d'Europe 1. Bonjour Thierry.
Bonjour Franck.
C'est vous qui m'avez d'ailleurs mis la puce à l'oreille en me parlant de 2 ventes aux enchères. Il y en a une qui a eu lieu la semaine dernière à Drouot, hein, puis celle de demain donc à l'hôtel Salomon de Rothschild. On disperse beaucoup les souvenirs de Sacha Guitry en ce moment.
Oui, c'est heureux pour les collectionneurs, les amateurs, ceux qui ont de la tendresse, comme vous dites si bien, pour Sacha Guitry.
Oui, ils sont très nombreux et parmi eux, il y a évidemment Théodora Mitakis. Bonjour Théodora.
Bonjour Franck.
Vous êtes comédienne, scénariste et vous venez d'achever là un scénario sur Sacha Guitry pour la télé.
Absolument, où je parle absolument énormément de ces femmes, bien entendu.
Alors, avant d'en venir à ces femmes, et notamment à la première d'entre elles, à Charlotte Lizès, j'aimerais juste qu'on évoque l'enfance de Sacha, en quelques mots bien sûr, mais raconter notamment ses rapports assez difficiles avec sa propre mère, Renée Dupont de Saint-Geste.
Mais justement, on peut dire que la première femme qu'il a eue, comme tout homme d'ailleurs, c'est sa maman. Et oui, sa maman qui a beaucoup compté et qui va finalement ne pas
qui
vraiment
pas
lui donner.
Hein, c'est le moins
elle n'était
dire.
Pas très maternelle. Sacha est avec elle jusqu'à l'âge de 2 ans à peu près, puisque ensuite son père l'enlève à Saint-Pétersbourg et lui fait connaître déjà le théâtre tout petit et va lui donner le goût du théâtre et flamboyant et magique et jusqu'à la fin de sa vie.
Ouais, cet enlèvement évidemment du jeune Sacha par son père qui l'emmène comme ça à la cour du tsar Alexandre III et qui va l'exhiber littéralement comme il lui faisait faire des costumes qui étaient la réplication exacte
hein,
de ces costumes de scène. Ça a marqué Sacha. On peut dire que il aura été toute sa vie le fils de son père. Hein. Cette figure paternelle occupe complètement sa vie.
Son père va toujours rester dans son ombre. Ça va être un repère, une marque pour lui extrêmement forte.
En compagnie d'Henri Gidel, que je salue très chaleureusement, nous avions d'ailleurs évoqué cette liaison à deux, hein, cette relation père-fils extrêmement forte. La relation mère-fils est beaucoup moins forte. On peut dire que toute sa vie, Sacha va en quelque sorte manquer d'une mère. Alors, est-ce que la première des mères de substitution qu'il va se trouver, c'est Charlotte Lizès? C'est peut-être un peu excessif de dire ça. J'aimerais, avant d'entrer dans les différents mariages de Sacha, avant de nous immiscer dans cette intimité conjugale, que nous écoutions ce que disait l'une des plus célèbres épouses de Sacha Guitry, Jacqueline de Lubac. C'était au micro du regretté Jean-Claude Brialy, sur l'antenne d'Europe 1, bien entendu. Voilà ce qu'il y a quelques années, Jacqueline de Lubac disait de la relation que Sacha entretenait avec ses épouses.
Ces femmes lui ont échappé après un certain temps. Toutes, nous avons eu un peu les mêmes réactions, de façon différente, parce que cette vie, je vous dis, de travailler austère, faisait peut-être qu'un jour, les femmes ont envie d'aller danser, ont envie, je sais pas, d'avoir un flirt, ont envie de choses différentes, et d'être seules. C'était surtout sa présence, cette espèce de tyrannie qui ne vous laissait jamais seul un seul instant. Jamais, jamais. Il fallait être avec lui. Moi, j'ai passé 8 ans de ma vie avec lui. Eh bien, je n'aurais jamais dit ça d'aucun autre homme, mais je suis sûre qu'il ne m'a pas trompée, ni que je ne l'ai pas trompée, parce que nous ne nous sommes jamais quittés. Alors, peut-être qu'à la longue, il y a une certaine lassitude.
Cette espèce de tyrannie qui ne vous laissait jamais seul un seul instant, dit Jacqueline de Lubac. Ça devait être assez particulier de vivre avec Sacha Guitry. Thierry Geffrotin.
Déjà, sa présence et sa personnalité, parce que non seulement il est présent physiquement, mais il dégage, hein, et il ne passe pas inaperçu quand il est dans un lieu. Et ce que dit Jacqueline de Lubac, c'est exactement ça. C'est-à-dire que toutes ont fini par céder alors qu'elles étaient... elles croulaient sous les cadeaux, sous les bijoux, sous les toilettes, mais à un moment, elles n'en pouvaient plus d'être en cage, parce que c'était ça, elles étaient en cage. On parle évidemment d'Yvonne Printemps qui est le
des
rossignol.
Des beaux oiseaux en cage.
Mais
ça,
c'était le rossignol en cage.
C'était une prison dorée.
Il aimait les afficher, hein. Il y a ce côté-là, évidemment. Hein. Ça flattait son égo, sans doute, d'être toujours avec de très jolies jeunes femmes.
Oui, d'ailleurs, il dit il faut se marier avec des belles femmes pour savoir pourquoi on nous en débarrasse un jour.
Ah oui, parce que alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que sur le mariage, il en a eu hein, des sorties de toutes sortes. On s'amusait à en citer ce matin même dans les couloirs d'Europe 1.
Oui, alors allez, je vous en donne une autre. Hein. Je vous avais dit ce matin, le mariage est une comédie qui s'achève et une tragédie qui commence. Oui. Ça, c'est un peu dur. Mais moi, j'aime bien celle-ci. Il n'est pas rare qu'un homme et une femme mariés s'aiment, mais en général, ils ne sont pas mariés ensemble.
Nuance. Alors, le premier mariage de Sacha Guitry, c'est avec une femme qui, alors ça, il faut le dire, c'est un cas presque unique. Elle a 8 ans de plus que lui. Ça va changer hein, par la suite. Et pour cause, j'ai envie de dire, elle est d'abord la maîtresse de son père. Ça, c'est curieux.
Et oui,
hein.
Charlotte Lizès, c'est très jolie. C'est une jeune comédienne très prometteuse qui sort de la Comédie française. Et puis, elle trouve un engagement au Théâtre de la Renaissance. Et le Théâtre de la Renaissance est tenu par Lucien, voilà, le papa de Sacha, mais qu'on surnomme Divan le Terrible, parce que Lucien, effectivement,
la promotion
canapé, absolument. Donc elle trouve un engagement au Théâtre de la Renaissance, quelques mots, 3 phrases dans une petite pièce, elle n'a pas le succès qu'elle escompte, mais elle devient la maîtresse de Lucien. Mais elle se lasse évidemment très vite, car Lucien a beaucoup de maîtresses et ce n'est pas du tout ce que souhaite Charlotte. Mais elle va faire la rencontre de Sacha, ça va être des petits flirts dans les coulisses du théâtre, des petites œillades. Tout le monde va être au courant, sauf évidemment l'intéressé, Lucien, qui va devenir absolument fou de rage quand il va se rendre compte qu'il est cocu. Pour une fois, c'est lui.
Et ça, c'est une scène alors vraiment de théâtre. Hein. C'est assez extraordinaire ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est le fils qui va voler la maîtresse de son père et qui d'ailleurs l'épousera.
Oui, alors c'est peut-être d'ailleurs la maîtresse qui va voler le fils. Je pense que c'est elle qui a été très active. Charlotte Lizès qui était très cultivée, très fine. Parce qu'on a, voilà, on parlait de ces femmes qui étaient des objets que Sacha Guitry présentait au monde. Charlotte Lizès était particulièrement raffinée, était très cultivée. Et je pense qu'elle l'a mis au travail, parce qu'en effet on entend
absolument
Jacqueline Delubac qui dit que c'était un bagne que d'habiter 18 avenue Élysée-Reclus, parce qu'il travaillait du matin au soir, du soir au matin, mais il faut savoir que jusqu'à l'âge de 20 ans Sacha, fils à papa, était nosseur et pas bosseur. Voilà.
Il courait les casinos, il faisait des parties de poker, il courait la gueuse toute la nuit à Enghien. Avec son frère Jean, oui. Et c'était des dandies, hein, il faut bien le reconnaître.
On était mal partis, on n'était pas prêt d'avoir un deuxième Molière.
Charlotte va le recadrer en quelque sorte. Alors là, vraiment, elle va avoir avec lui une attitude qui est largement maternelle.
Hein, absolument. C'est ça, c'est étonnant. Elle va tout faire pour le faire travailler. C'est elle qui va être finalement le détonateur de sa grande et illustre carrière. Elle va le mettre au travail. Mais ça va être très difficile pour Sacha parce que la rupture avec son père, financière aussi, va être terrible. C'est-à-dire que ça va être l'époque des vaches maigres. Oui. Il va falloir que Sacha il se mette au travail parce que sinon, ils n'ont plus rien à manger.
Alors, ils se marient juste au lendemain de la Première Guerre mondiale. Alors, on a bien sûr les photos hein, de ce mariage, parce que les témoins, ça n'est pas n'importe qui, évidemment.
Marguerite Moreno, qui va devenir un de ses personnages et une camarade jusqu'à la fin de ses jours.
Sarah Bernard, Tristan Bernard, qui n'a rien à voir avec Sarah Bernard, mais enfin c'est
et alors Sacha et Fédo, absolument, ils font partie des intimes, ils font la fête à cette époque-là. On aime bien faire des farces, on aime bien rigoler, on s'amuse beaucoup, et alors ils vont organiser un mariage un petit peu surréaliste, un petit peu hors du commun. Sacha a toujours l'art de tout mettre en scène, alors, même son propre mariage.
Le paradoxe, c'est que cette union va quand même durer un certain temps. Il se marie. Ah non, mais je me trompe, pardon.
Le
mariage est celui d'Yvonne Printemps.
Il y en a tellement de femmes.
C'est ça, ils se sont mariés. Alors, ils se sont mariés en 1907,
oui.
Et ça va durer 10 ans, puisque se séparent en 1917, et ils divorcent en 1918.
Mais il semble bien que quelques mois après le mariage, on est encore en 1907, que déjà les liens du mariage ne soient pas si forts. Et donc ils vont attendre longtemps, mais rapidement. Alors sans doute, Sacha est-il trop jeune, hein. N'oublions pas qu'il est né en 1885. Il est peut-être encore trop jeune pour comprendre ce que c'est que le mariage.
Alors justement, nous venons de voir le mariage de Sacha Guitry avec Yvonne Printemps. Finalement, ça, on l'a déjà fait. Nous arrivons à la deuxième épouse de Sacha Guitry. Celle-là est infiniment plus connue que la première.
Franck Ferrand sur Europe 1.
Les deux amants, c'est beaucoup mieux, car je fais croire à chacun d'eux que l'autre est le monsieur sérieux. Mon Dieu, que c'est bête, les hommes, ils me donnent la même somme, exactement par mois, et je fais croire à chacun d'eux que l'autre m'a donné le double chaque fois. Et ma foi, il me croit tous les deux.
Yvonne Printemps sur Europe 1 avec J'ai deux amants. Que c'est bête les hommes.
Mon Dieu, que c'est bête, comme on disait les hommes. Yvonne Printemps, alors... je reviens sur nos histoires de mariage parce que je me suis trompé de mariage tout
et
à
oui,
l'heure.
Franck.
En 1907 à Honfleur, le 13 août 1907 à Honfleur, Charlotte Lizès épouse Sacha Guitry et ils vont se séparer seulement 10 ans plus tard en 1917 avant de divorcer en 1918. Et puis l'année suivante, le le 10 avril 1919, a lieu le fameux mariage. Alors c'est pour ça que j'avais la photo célèbre à l'esprit, à la mairie du 16e, ce mariage où Georges Feydeau est témoin.
Et Sarah Bernhardt sont témoins. Et d'ailleurs, Georges Feydeau arrive énormément en retard. On a donc failli demander un autre témoin en catastrophe pour le mariage.
Et alors ça va durer encore bien plus longtemps, puisqu'ils vivront ensemble jusqu'en 1932 et ne divorceront qu'en 1934. Alors, il faut expliquer qui est Yvonne Printemps. Là, on n'est plus du tout en présence d'une inconnue. Hein.
Un monstre sacré. Voilà, on a tout dit. Hein. Non, c'est une soprano magnifique. Très belle voix. Elle a commencé très très jeune. Elle est montée sur scène, elle était encore adolescente. Elle a fait beaucoup, beaucoup de scènes. Elle a fait chavirer beaucoup de cœurs parce que dès sa plus tendre adolescence, elle commençait à affoler ces messieurs. D'ailleurs, elle était toujours accompagnée de sa maman qu'on appelait le général Hiver. C'était bien, on avait Yvonne Printemps et le général Hiver.
C'était lingère à Hermont.
Voilà, parce que elle sort pas du conservatoire. Elle ne sort pas des grands lieux de spectacle, elle s'est fait à la force.
Elle s'est forgée au music-hall, dans les cabarets. C'est vraiment déjà une petite vedette lorsqu'elle rencontre Sacha Guitry. On parle d'elle déjà dans Paris.
Ce qu'il faut dire, Théodora, c'est que c'est Charlotte Lizès qui a conduit Sacha Guitry à aller l'applaudir.
Absolument.
Et il est tombé fou amoureux.
Mais c'est terrifiant. Donc Sacha Guitry, un soir, il cherche une jeune ingénue avec une espèce de gouaille comme ça. Et son ami intime, Albert Villemetz, lui dit viens, on va aller voir une petite femme de Paris qui va rappeler d'ailleurs à Sacha ses jeunes années lorsqu'il allait voir Jeanne Avril au Moulin Rouge. Il a toujours aimé un petit peu les petites femmes comme ça, un peu légères, amusantes, espiègles. Et lorsqu'il voit Yvonne Printemps, il est sous le charme. C'est le coup de foudre total. Il tombe éperdument amoureux d'elle.
Et alors c'est là qu'on voit à quel point, évidemment, les relations amoureuses et conjugales peuvent avoir un rôle essentiel sur une carrière, parce que d'un seul coup la plume de Sacha devient très prolifique. Toutes ces grandes œuvres, c'est la période d'Yvonne Printemps.
Exactement, il y a 34 pièces, alors à une ou deux pièces près, mais on peut dire qu'il y a une trentaine de pièces qui sont écrites par Sacha Guitry pendant son mariage avec Yvonne Printemps, qui est presque sa muse. En tout cas, il la met bien en scène. Il la fait chanter aussi, puisqu'on a entendu J'ai deux amants qui est écrit par Messager, L'amour masqué. On est déjà dans l'opérette, quasiment la comédie musicale. Et vraiment, il sait utiliser le talent d'Yvonne Printemps. Et elle a beaucoup de talent, beaucoup. C'est un couple, on imagine aujourd'hui dans les journaux People, ils seraient, je pense, en couverture chaque semaine.
Ah c'est
un couple mythique.
Et là, pour la première fois dans le couple, Yvonne est plus jeune de lui que lui de 9 ans. Ils ont 9 ans d'écart. Donc ça va quand même changer la donne. Sacha Guitry, il va être un peu plus protecteur. Il va se sentir un peu plus viril, un peu plus homme, il devient son Pygmalion.
Alors lui est très amoureux, elle l'est nettement moins, c'est ce qu'on va voir dans un instant.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et cet après-midi sur Europe 1, nous redécouvrons Sacha Guitry à travers les yeux de ses 5 épouses, Franck.
Et oui, et là nous en sommes à la deuxième pour l'instant, qui a été sans doute la plus flamboyante, évidemment la plus connue, et c'est le couple mythique. On peut dire qu'ils sont le roi et la reine de Paris.
Hein,
c'est les années folles.
C'est les années folles, on s'amuse, on les acclame, on les voit partout, on veut les recevoir à sa table. Les princes, les rois de toute l'Europe les congratulent, on vient les voir, c'est le couple le plus mythique de Paris.
Et la tendresse de Sacha ne faiblit pas pour celle qu'il appelle...
Alors, Von ou Von, puisque voilà, c'est...
Mon petit Von.
Mon petit Von, oui.
Elle a été aussi amoureuse et aimée de Georges Guynemer.
Oui.
Alors, elle avait été la maîtresse de l'aviateur Guynemer, oui. Et ensuite, elle sera celle de Pierre Fresnay, parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'elle le trompe quand même.
Eh oui, alors voilà, évidemment. Yvonne, elle a des exigences, paraît-il, absolument terrible. Et un très gros appétit. Je pense que Sacha en a été sans doute très très malheureux. Le couple s'isole de plus en plus. Alors, il y a des fameuses histoires qui courent sur Yvonne, qui trompe son mari allègrement. Elle part souvent l'après-midi faire des courses aux Galeries Lafayette avec le chauffeur qui la dépose devant les portes des grands magasins. Et donc, elle passe par les Galeries Lafayette et rue Comartin, il y a un charmant petit hôtel où elle va retrouver ses amants pendant une heure et demie. Et ensuite, elle ressort avec des paquets. Parfois, elle a des paquets. Parfois, elle n'a pas le temps parce que l'heure presse. Elle doit aller retrouver Sacha et Élisée Reclus. Et elle n'a pas de paquets. Et là, Sacha va vraiment commencer à se poser des questions.
Élisée Reclus, c'est donc la rue dans laquelle se trouve l'hôtel particulier devenu mythique de Sacha Guitry qui malheureusement sera détruit dans les années 60.
Malheureusement, il faut aussi dire que grâce à Yvonne, ça c'est très important, Sacha Guitry qui avait rompu donc les liens avec son papa Lucien, grâce au départ, si on peut dire, de Charlotte Lysès, il va retrouver son père aussi.
Et ça, ce sera là les grandes retrouvailles de sa vie avec ses pièces extraordinaires, Pasteur, Mon père avait raison, etc. Tout à fait. Où il met toujours, encore une fois, sa propre vie en scène. C'est-à-dire que le public parisien vit, est au courant des hauts et des bas de la vie conjugale et de la vie personnelle de Sacha Guitry en fonction de ce qu'il raconte dans ses propres pièces.
C'est une intimité fort
publique. C'est de la télé-réalité avant l'heure,
oui,
si
exactement.
Je puis dire.
Alors, puisqu'on parlait de Pierre Freinet, je vais me permettre une citation parce qu'on ne résiste pas aux citations de Guitry. C'est toujours un peu acide, amer, mais tellement drôle. À propos de Pierre Freinet qui disait pique-pendre de Guitry sur la place de Paris, juste après lui avoir volé Yvonne Printemps, Guitry a eu ce mot « Il n'aura pas été long à se venger
». C'est assez terrible. On peut dire que après la petite caillette des banlieues, Sacha Guitry va s'éprendre d'une jeune fille de la bonne bourgeoisie, peut-être justement parce qu'il a été un peu échaudé par le côté assez
étourdi. Son grand amour, Yvonne Printemps, hein,
oui.
C'est très triste
ouais,
hein, pour lui. Hein. Il se fait plaquer quand même, hein. C'est très difficile comme situation.
Et puis il a beaucoup créé avec elle.
Il est au sommet
créateur
de la gloire et de sa carrière. On est en 1932 et donc il se sépare de...
d'Yvonne Printemps. Enfin, c'est elle qui le quitte. Hein,
oui.
Et donc il s'ennuie et puis Sacha Guitry sent les femmes, il est un peu perdu, il faut bien le dire, et un jour on va lui présenter une jeune comédienne qui arrive tout droit de Lyon avec sa maman qui s'appelait Jacqueline Delubac, et elle veut faire du théâtre, donc un ami en commun va lui présenter cette ravissante lyonnaise et il va tomber sous le charme.
Alors cette fois elle a 22 ans de moins que lui, mais lui dira qu'elle en a 25 parce que ça lui permet de faire un jeu de mots. Il dit elle a 25 ans, j'en ai 50, elle a la moitié de mon âge, il est normal. J'avais le double de son âge, il est normal que j'en fasse ma moitié.
Et d'ailleurs, Jacqueline Delubac, après ce bon mot, en a profité pour se rajeunir.
Évidemment, c'était pratique. Donc en fait, on peut dire que Jacqueline Delubac va être Madame Sacha Guitry jusqu'à la guerre.
Oui, hein,
ça va durer 8 ans, nous l'a dit
enfin,
tout à l'heure.
Au début, elle va faire un peu la délicate, hein, elle va repousser ses avances, il va lui faire envoyer une montre sertie de diamants, elle va garder juste le petit mot, elle va lui renvoyer la montre, il lui envoie des fleurs, il lui fait la cour, il l'invite à déjeuner, tout ça, c'est du grand Guitry, il est flamboyant, il est majestueux.
Et bien entendu, il la fait monter à ses côtés sur scène et à l'écran, parce qu'elle est celle qui va vraiment devenir, pour le public de cinéma, Madame Sacha Guitry. Voici un extrait d'ailleurs d'un film où joue Jacqueline Delubac avec Sacha Guitry, c'est Faisons un rêve.
Enfin, vous ne vous rendez donc pas compte.
Si.
Vous vous rendez compte que je suis mariée, que j'ai découché.
Oui, oui, oui.
Vous vous rendez compte de ce qui va se passer.
Oui, oui, mon amour, je me rends compte de tout. Mais vous ne vous rendez pas compte d'une chose, vous, c'est qu'en ce moment, si vous êtes dans mon lit, avec une chemise de nuit à moi, c'est un spectacle ravissant. Vous ne vous rendez pas compte que nous sommes en train de vivre des minutes incomparables, inoubliables, charmantes.
Ah, vous trouvez que c'est charmant?
Ah oui, oh oui, oh.
Mais c'est abominable.
Aussi, parce que je vais vous dire franchement, une aventure a toujours plusieurs côtés. La nôtre a un côté abominable et un côté charmant, ne m'en veuillez pas trop. Chacun son caractère, ne m'en veuillez pas si malgré moi, je vois d'abord le côté charmant de notre aventure.
Comment? Il est 8h du matin et je ne suis pas encore rentrée à la maison.
Ça, c'est le côté abominable de l'aventure.
Nous avons passé toute la nuit ensemble.
Ça, c'est le côté charmant de l'aventure.
Quand je vais rentrer à la maison...
Oh là là, qu'est-ce que vous allez prendre? Ça, c'est le côté abominable. Mais lorsque je vous demande, mon amour chéri, qu'est-ce que vous prenez le matin, vous m'avouez que ça, c'est le côté charmant de l'aventure. Qu'est-ce que tu prends le matin, toi, que j'aime? Veux-tu du thé? Veux-tu du chocolat?
Oh, est-ce que je sais?
Viens, alors tu auras du café au lait.
Écoutez, je vous supplie...
De m'embrasser.
Oh non, voyons, qu'est-ce que nous allons faire?
Rien, c'est bien simple, rien, il n'y a rien à faire, mon cher.
Comment rien?
Mais non, à moi de recommencer ce que nous avons fait cette nuit, je vois pas bien ce qu'on pourrait faire.
Alors, il se trouve que c'est fabuleux cette scène. Il se trouve que j'ai eu l'occasion et la chance de croiser un peu Jacqueline de Lubac à la toute fin de sa vie. Et ce que je me rappelle très bien, c'est qu'elle détestait qu'on évoque sa vie avec Sacha Guitry. C'était presque lui faire une insulte que de parler de ça. Hein. Oui. L'ennuyait beaucoup.
Vous avez beaucoup de chance, Franck, parce que moi j'ai cherché à la rencontrer. Oui. Je l'ai eu au téléphone et en effet, elle m'a dit exactement ça. Elle m'a dit, vous savez, monsieur, c'est très très loin cette vie et c'est une autre personne.
Ça, voilà.
Elle avait tiré le rideau. Oui.
Et elle avait aussi cette pudeur, cette délicatesse aussi de ne pas vouloir en parler, de ne pas vouloir encore s'exposer, à le calomnier. Je pense que ça a été une femme de très grande classe
et
qu'il l'a gardée jusqu'au bout. Et je trouve que c'était plutôt une bonne idée de ne pas parler de Guitry.
Elle était passionnée par la peinture, lui aussi, disons-le. Hein, c'était un grand collectionneur.
Très grand collectionneur. Il a eu une immense collection. C'était son hôtel.
Il avait très bien connu Monet, Renoir, évidemment. On voit ça dans ce chez
nous. Grâce à lui, voilà, on a un très très beau documentaire où on peut les voir encore vivants et c'est assez fascinant. C'est lui d'ailleurs qui a été le pionnier du documentaire. Hein.
Et oui, on peut dire que ce film, ceux de chez nous, est un des tout premiers documentaires en France, en tout cas.
Tourné en pleine guerre, en 1915, à la gloire des artistes français, ce qui est une manière pour lui de participer au combat contre les Allemands. À propos de Jacqueline de Lubac, il y a une chose que je veux absolument dire. On peut dire que c'est une comédienne, évidemment, qui n'est pas à la hauteur, sans doute, d'Yvonne Printemps.
Mais elle lui
met le pied à l'étrier et elle arrive à le convaincre qu'il doit faire du cinéma. Parce que lui, il n'y croit pas. Il dit au cinéma, on a joué, alors qu'au théâtre, on joue. Et voilà, elle arrive à le convaincre. Il tourne Bonne Chance en 1935.
Magnifique.
Et à partir de ce moment-là, ça devient aussi un homme de cinéma, parce que c'est vraiment un homme de cinéma. C'est l'un des premiers qui utilise deux caméras sur une même scène. Enfin, il a des idées.
La voix off
dans, évidemment, le roman d'un tricheur. C'est vraiment un homme de cinéma. Et pendant longtemps, on a dit, oui, il fait du théâtre filmé. C'est faux.
Ils ont joué 11 films ensemble et 23 pièces, hein, tout de même.
Les Perles de la Couronne vont être un immense succès.
Et oui, à l'occasion du couronnement du roi George VI. Enfin bon, tout ça va durer quasiment jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Ils sont séparés le 15 décembre 1938 et le divorce sera prononcé le 5 avril 1939. On peut dire qu'avec le départ de Jacqueline de Lubac, c'est la période ensoleillée de la vie de Guitry qui s'achève,
oui,
en quelque sorte.
Le côté flamboyant, vraiment cette espèce d'insouciance qu'il avait depuis qu'il était petit, la guerre qui arrive, vraiment, il commence à perdre ses repères.
Alors, la quatrième épouse de ce barbe bleue absolument pas sanguinaire, c'était Geneviève de Sérévy, qu'on appelle d'ailleurs généralement Geneviève Guitry. C'est la seule
qu'ils se sont mariés à l'église. Jusque-là, on ne s'est pas marié à l'église.
Ah, voilà,
avec Geneviève de Sérévy, on passe devant monsieur le curé. Il passerait une deuxième fois, d'ailleurs.
Alors, qui était cette Geneviève Guitry? Eh bien, c'est ce que nous voyons dans un instant.
Nous sommes toujours sur Europe 1 en compagnie de Thierry Geffretin, monsieur culture d'Europe 1, et Théodora Mitakis, qui est comédienne et scénariste. C'est une invitation au voyage à la découverte d'un Sacha Guitry intime aujourd'hui, Franck.
Eh oui, le Sacha Guitry, j'allais dire conjugal, on devrait dire comme en Italie, matrimonial, vous savez. C'est assez intéressant de voir, en fait, qui étaient les femmes, lui qui a tant glosé sur les femmes, eh bien, qui étaient ses épouses? Alors nous avons parlé de Charlotte Lizès, d'Yvonne Printemps, de Jacqueline de Lubac, et donc juste avant la guerre, il épouse Geneviève de Sérévy.
Et oui, on peut dire que la fin avec Jacqueline de Lubac, si je peux revenir 2 minutes dessus, c'est que Jacqueline, finalement, quand on vit avec un génie époustouflant tous les jours du matin au petit déjeuner, parce que c'est un personnage, elle le dit d'ailleurs dans son interview, très très étouffant. On ne peut pas vivre une seconde sans lui. Il exige même de regarder votre tenue vestimentaire, vos sorties, vos fréquentations, et Jacqueline commence à s'ennuyer mortellement. Et là, c'est vraiment la rupture définitive.
Oui, ce côté jaloux qu'on trouve un peu chez Proust, par exemple. Enfin, cette jalousie était un des traits dominants.
Alors, je ne sais pas si c'est vraiment de la jalousie. Je crois que c'est...
De l'exclusivisme, un peu. Hein.
Oui, exclusivisme. Directeur de théâtre. Il faut qu'il gère tout au théâtre, comme dans son appartement, comme dans sa maison, comme avec ses femmes. Pour lui, les vêtements, c'est des costumes. Ce n'est pas une simple petite robe. Il faut tout un apparat derrière. Et c'est très, très ennuyeux pour une femme qui a envie d'être libre.
Juste avant la guerre, Sacha va jouer avec celle qui est devenue Geneviève Guitry, un de ses meilleurs films, en tout cas l'un des plus drôles, incontestablement. Ils étaient 9 célibataires, voici un extrait.
Mais mademoiselle,
c'est un
des
plus drôles, c'est mon préféré.
Oui, pourquoi?
Oh non, pour rien, c'est à cause de vos parents, je me permets de vous le demander.
Je n'ai pas de parents.
Oh.
Non, je suis seule au monde.
Oh.
Oui, mais vous ne croyez pas que tout le monde est seul au monde?
C'est possible, en effet, oui. Mais vous n'avez même pas...
Non, personne.
Ah, vous travaillez alors?
Oh, mais oui.
Ah, couture?
Non, je chante dans une boîte de nuit.
Ah, mais oui, je me disais aussi, je vous ai applaudi dernièrement. Oui, 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 voilà, voilà.
Alors, je peux le voir, le vieux monsieur?
Oui, mais mademoiselle, écoutez, entre nous, vous savez qu'il ne faut pas tellement s'affoler au sujet de ce décret-loi sur les étrangers. Il y aura de nombreuses exceptions. Voulez-vous réfléchir 48 heures encore?
Non.
Non.
Non, il y a peut-être des femmes qui ne m'aiment pas, qui me signaleraient. Non, c'est plus prudent d'agir très vite.
Bon, 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 bon.
Alors je précise que l'accent de Geneviève dans cet extrait est un accent de jeu, hein, bien entendu. Elle feint l'accent, enfin, pas très bien d'ailleurs,
non.
L'accent anglais. Elle jouait pas formidablement.
Alors que Jacqueline de Lubac oui. faisait très bien l'accent anglais.
Il l'a engagé d'ailleurs pour ça, Jacqueline de Lubac,
mais là,
avec un accent américain.
On touche les limites un peu de l'actrice.
Hein. Je crois que de nos jours, ça passerait plus du tout ça.
C'est vraiment parce que c'est l'épouse du réalisateur et principal acteur. Oui. Hein, quand même.
C'est très drôle ce film parce qu'il s'agit de femmes sans papier que Guitry se charge de faire épouser. Alors ce sont des clochards, des gens qui traînent dans les rues. C'est quand même très bizarre. Quoi.
Oui.
Qui est-elle quand même? Il faut expliquer qui est cette Geneviève de Sérévy.
Donc Sacha Guitry, une nouvelle fois, se retrouve seul et s'ennuie mortellement. Et il lui faut une femme à ses côtés, jeune et jolie. Hein. C'est toujours ce qu'il a préconisé. Et un jour, un ami, au théâtre, alors qu'il joue l'illusionniste, il est dans sa loge et lui amène cette jeune fille qui est la Miss Cinémonde. Elle a décroché une revue très célèbre à l'époque. Il y a un concours pour la plus belle jeune fille de l'année et Geneviève de Sérivil va remporter ce concours. Et alors elle dit qu'elle a, elle aussi, elle se rajeunit. Hein. C'était un petit peu la mode à l'époque. Elle dit qu'elle a 20 ans, mais en vérité elle en a 24 lorsqu'elle rencontre Sacha Guitry. Il va lui faire la cour, naturellement.
Elle a 29 ans de moins que lui cette fois.
Absolument.
C'est ça, elle a 53 ans.
La différence, chaque fois qu'il a une nouvelle,
ça
croît à chaque fois qu'il a une nouvelle épouse.
D'ailleurs, on a dit la prochaine fois, il épousera Shirley Temple.
C'est vrai. Et elle va succomber assez facilement finalement parce que Geneviève, elle rêve de gloire et elle connaît depuis qu'elle est toute petite Sacha Guitry. Elle entend dire que c'est un vieux monsieur pour elle. C'est un vieux monsieur, mais elle dira dans ses mémoires que la première fois qu'elle le voit, finalement, elle ne le trouve pas si vieux. Il a des très beaux yeux bleus. Il est rassurant. Il est très beau, il est charmeur, c'est un grand séducteur. C'est le plus beau rôle qu'il a jamais eu, c'est le rôle de la séduction.
Ça ne va pas être un très beau mariage, hein, disons.
Non, et ça ne va pas durer longtemps, parce que Geneviève, mais écoutez, quand on s'aime beaucoup, la différence d'âge, ce n'est pas très important, mais quand on
s'aime plus, oui, ça c'est
moi-même. C'est vraiment beaucoup. Oui. Et puis Geneviève, c'est une jeune fille qui est aristocrate, elle a perdu sa maman très jeune, son papa est un riche industriel. Elle est assez capricieuse finalement, elle veut tout et encore plus, et puis c'est jamais assez bien, puis elle veut surtout des grands rôles que Sacha Guitry, il lui donne pas vraiment, donc ça ne va pas arranger sa carrière, et plus elle va se sentir isolée.
Et puis c'est la guerre,
c'est une ambiance qui n'est pas très drôle pour le couple, ils vont plus vraiment pouvoir sortir, plus vraiment pouvoir fréquenter leurs amis. Alors outre que Sacha Guitry va lui faire un mariage de star à Ternay. C'est une maison, un petit château qu'il a acheté à côté de Saint-Cyr. Il va y avoir même la femme du président de la République qui va venir, un ministre.
Il y a un très beau reportage photographique. On voit les mariés qui...
Dans Cinémonde, évidemment.
Qui avancent à pied dans ce petit village. C'est très,
c'est
très
superbe.
Beau.
Superbe. L'église, et c'est la première fois qu'il se marie à l'église. Donc l'église, il va y avoir plein de fleurs, des guirlandes, ça va être magnifique. Mais, et puis alors, à Ternay, le petit château, il y a des animaux, c'est un peu Walt Disney, c'est féerique.
Ce qu'il faut dire, c'est qu'à l'époque de Geneviève, Sacha tourne essentiellement au studio François 1er, c'est-à-dire exactement là où nous sommes.
Et je voudrais parler d'un film absolument qui s'appelle Donne-moi tes yeux, qui a été tourné ici, rue François 1er, dans les studios François 1er.
Qui sont devenus les studios d'Europe 1.
Devenus les studios d'Europe 1 parce que Geneviève de Sérévil, Geneviève Guitry, joue dans ce film qui est un film qu'il faut absolument voir. Parce qu'on dit toujours, oui, c'est des bulles de champagne, Guitry, c'est du boulevard, etc. Quand on voit ce film, c'est presque une tragédie.
Oui,
c'est l'histoire d'un monsieur qui est déclinant, sculpteur, qui va perdre la vue. Il l'apprend alors qu'il vient de courtiser une jeune femme et plutôt que de lui dire la vérité, il s'ingénie à la faire à ce qu'elle s'en aille d'elle-même. Donc il devient odieux, il s'affiche avec d'autres femmes. Elle va partir en effet, mais elle va apprendre pourquoi il a fait tout ça. C'est parce qu'il tombe aveugle et qu'il ne veut pas devenir un poids pour elle.
Quelque chose de tragique là, ou en tout cas de, profondément mélodramatique.
Et très poétique. Ouais, c'est un peu annonciateur de tout ce qui va se produire après.
Oui. Et alors il y a une phrase très drôle puisque c'est tourné pendant la guerre. Il est sculpteur et elle dit voilà, vous allez me sculpter. Il lui dit oui, je vais vous faire anglaise. Et la censure n'a pas vu ce clin d'œil. Alors ça fait pas de Sacha Guitry un résistant, mais il y a quand même quelque chose d'assez drôle de la part de ce créateur dont on a dit qu'il avait aucun sens politique.
Alors oui, sculpteur sans doute assez faux. Alors, ça n'en fait pas un résistant et c'est même le moins qu'on puisse dire puisqu'à la Libération, bien sûr, on connaît cette célèbre affaire. Hein, Sacha Guitry est arrêté. Ça va être
c'est très dur, très violent. Il parle des heures sombres. Il n'en dira pas plus.
Il est arrêté le jour de la Libération.
Oui,
le 23 août 1944, oui, chez lui.
Bien sûr.
J'ai été de la Libération de Paris, j'étais le premier prévenu.
Malheureusement.
Oui. Alors ça va être pour lui un véritable choc, cette arrestation, et puis toute l'indignité qui va avec. À une époque où il songeait sérieusement à l'Académie française, tout ça rend les choses impossibles, bien entendu. Ça, on peut dire que ça va endeuiller toute la fin de sa vie. Et d'ailleurs, Geneviève, par la même occasion, elle est partie.
Elle est déjà partie vers d'autres aventures, on ne sait pas trop où, mais en tout cas, elle disparaît, elle le laisse tout seul.
La dernière épouse de Sacha Guitry, ce sera Lana Marconi. C'est à elle qu'il avait dit « Vous fermerez mes yeux et ouvrirez mes tiroirs ». Nous y venons dans un instant.
Jusqu'à 14h sur Europe 1, nous évoquons Sacha Guitry, Franck.
Ce qui est assez étonnant avec toutes ces femmes, c'est qu'il n'ait pas eu d'enfant. C'est quand même, ça c'est le grand mystère de sa vie, Théodora Mitakis.
Oui, c'est vrai, c'est assez surprenant. On s'interroge tous sur le fait qu'il n'ait pas eu d'enfant. Alors, c'est vrai qu'il avait quand même eu des femmes très jeunes. Avec Charlotte, on peut comprendre, elle était beaucoup plus âgée que lui. Yvonne, on peut supposer que leur liaison sur le lit n'a peut-être pas été très longue et ensuite elle est allée vers d'autres hommes. Mais elles étaient quand même, à la fin, toutes beaucoup plus jeunes que lui. Il aurait pu avoir des enfants. On sait qu'il voulait en avoir. Et parce que
lui qui avait une relation si forte avec son père, il n'aura jamais été père.
Et pourtant, c'est son grand regret. Il adore les enfants, il veut en avoir. On sait qu'il est allé voir un gynécologue avec Geneviève de Séréville après son mariage et qu'il a demandé si Geneviève pouvait avoir des enfants. Le gynécologue lui dit oui, mais par contre, vous savez, à cette époque, c'est un sujet un petit peu tabou. Et puis les hommes ne se considèrent jamais comme stériles. Donc on ne sait pas ce qui se passe du côté de leur couple véritablement. Peut-être qu'ils l'étaient stériles, on ne sait pas.
Oui, c'est quand même effectivement un mystère. Il y a eu des bruits qui ont couru sur des enfants naturels éventuels,
comme il a couru aussi des bruits sur les autres femmes de Sacha Guitry, puisqu'il a eu lui aussi des maîtresses.
Il y a eu des maîtresses, et puis il y a eu une amie, si je puis dire, qui est très importante, qui part longtemps en tournée avec lui à travers l'Europe, etc., qui l'amuse comme personne d'autre, c'est Arletty.
À qui il va proposer aussi le mariage, parenthèse.
Elle dit, ah non, le théâtre, 24 heures sur 24, merci bien.
On était presque à l'accent gouailleux d'Arletty.
D'ailleurs, il dit « Oui, je veux bien me marier avec toi, mais si c'est le pape qui nous marie. »
Voilà, elle met la barre très haut.
Elle met la barre très haut, mais lui, il dit « Mais rien n'est impossible avec moi. »
Pourquoi pas ?
Pourquoi pas ? Arletty, finalement, s'en amuse beaucoup. C'est vraiment un bon copain, c'est un camarade. Elle connaît son côté séducteur, mais elle, c'est pas du tout son type d'homme. Hein.
D'ailleurs, c'est elle qui lui fournit, si je puis dire, sa dernière épouse. Hein.
Oui, un jour, donc, Sacha Guitry, finalement, il se retrouve encore une fois tout seul. Mince alors, comment va-t-il trouver sa future épouse ? Parce qu'il les épouse, de toute façon, quoi qu'il arrive. Et puis, il va dire à Arletty, il va dire, écoute, elle lui dit, mais comment tu imagines ta future épouse ? Et il lui dit, je l'imagine élégante, grande, distinguée, un peu distante et avec de grandes mains, de très belles mains et de grands ongles. Et elle lui dit, écoute, je crois que j'ai ce qu'il te faut. Elle va passer quelques coups de fil et qui vient prendre le thé ? Une très belle Roumaine qui porte le nom de Lana Marconi.
Alors cette Lana Marconi, il va l'épouser. Alors là, elle a carrément, je ne sais plus, 32 ans de moins.
Oui, elle est née en 1917. Oui.
Ouais. C'est-à-dire qu'au moment où elle est née, il était déjà une célébrité.
Lui. Elle a 28 ans lorsqu'elle rencontre Sacha Guitry. Hein. Elle est quand même
il était presque
plus jeune,
déjà divorcé d'avec Charlotte Lizès au moment où elle est née. Hein. C'est, bon. Ouais.
Et, alors... et il se marie à l'église. Hum? Ah, comment fait-il? Eh bien, il se convertit à la religion orthodoxe.
Voilà, ce qui permet de se remarier.
Donc, une nouvelle fois.
Alors, Lana Marconi, on pense accessoirement qu'elle est la fille d'un grand aristocrate roumain.
C'est ce
il
n'y
a pas
dit.
De preuve, c'est ce qu'elle dit. Tout le monde s'invente un peu des histoires à cette époque parce qu'on n'a pas Google, hein, on ne peut pas trouver de preuves.
On a déjà diffusé ça dans cette émission, mais c'est tellement charmant. C'est la rencontre entre Talleyrand et son épouse qui reproduit peut-être la rencontre entre Sacha et Lana Marconi.
Oh mon Dieu, mais vous êtes...
Oui madame, je suis celui que vous venez voir et qui en profitait d'ailleurs pour vous regarder.
Et je m'étais endormie chez vous.
Déjà.
Oh, je suis honteuse.
Mais pourquoi? Je n'étais pas là, vous disiez vous ennuyer.
Je voudrais me cacher.
Oh, oh, et moi qui aimerais tellement vous montrer. Qu'est-ce qui me vaut, madame, l'honneur, la joie de votre visite?
J'ai besoin d'un conseil.
Bon, parlez, parlez.
Monsieur de Monron m'a dit...
Vous vous sentiez fort, bon. Monsieur de Monron, pardon.
Monsieur de Monron m'a dit que l'argent que je possède à Londres est en danger.
Oh, et pour quelle raison, mon Dieu?
Parce qu'il m'a dit que l'empereur allait envahir l'Angleterre.
Monron est un farceur, mais c'est un bienfaiteur. Il vous a fait une farce et m'a fait un bienfait.
Il n'est pas vrai que l'empereur...
Non. Mais laissons-la à l'Angleterre. Vous n'êtes pas anglaise, madame.
Non.
D'où êtes-vous, s'il vous plaît?
Je suis d'Inde.
Comment l'entendez-vous, madame?
Je suis née aux Indes.
Née aux Indes.
À Tranquebar, mais je suis française. Je m'appelle Catherine Noël Vorley et à 15 ans, j'étais mariée à Monsieur Georges-François Grand.
Elle est assez bizarre. Hein. C'est, alors là, merveilleuse. Cette Lana Marconi est assez bizarre quand même. On peut dire qu'elle a un drôle de tempérament.
Oui.
Oui.
On dit qu'elle est un peu distante, un peu glaciale. Mais vous savez, elle a un drôle de tempérament. Il faut dire aussi qu'elle rencontre quand même Sacha.
Un vieux monsieur, là, maintenant.
Un vieux monsieur
brisé
qui
par
est un
les
peu
événements
amer,
dont on a parlé,
aigri,
oui.
Malade.
Physiquement transformé, oui.
Physiquement transformé. Et elle tombe sous le charme. En même temps, ils se rencontrent vraiment au bon moment. Je pense qu'elle l'aime sincèrement, peut-être aux autres. Je pense que Charlotte, Lizès, on peut dire, et Lana Marconi ont vraiment aimé Sacha Guitry. Les autres, on peut se poser la question. Mais elle a été avec lui, en tout cas, celle qui a été protectrice, qui lui a donné ses médicaments, qui l'a vraiment soutenu dans une période très difficile où il était
jusqu'à
ruiné. Jusqu'à la fin. Il était, il n'avait plus ses comptes en banque, ils étaient bloqués. Il avait subi toutes les humiliations de la guerre, de Drancy. Et pour lui, c'est très difficile de revenir. C'est la femme vraiment qu'il lui faut. Mais elle va être très critiquée. Lana Marconi. On ne va pas l'aimer beaucoup dans son entourage.
Sa fidèle
baronne, comme il l'appelait, Fernande Choiseul, qui était vraiment sa secrétaire attitrée, eh bien elle, du coup, elle va partir. Elle ne va pas supporter Lana Marconi, qui petit à petit va changer la décoration de l'hôtel de Élysée Reclus. Et donc, du coup, ça va être un petit peu différent pour
elle
Sacha.
Elle ne mourra à Neuilly qu'en 1990, Lana Marconi. Alors, il faut dire d'ailleurs que toutes ses épouses sont mortes. Et, évidemment, Charlotte Lizès, la première, en 1956. En 1963, c'est Geneviève hein, qui était morte, à Neuilly également.
En
Neuilly
77.
Également, en 77, va mourir Yvonne Printemps. Et puis donc, Lana Marconi est la dernière, nous l'avons dit tout à l'heure, c'était bien sûr Jacqueline de Lubac.
De manière
en 1997.
Tragique, puisqu'elle est renversée par un vélo sur le quai d'Orsay. C'est quand même assez. C'est un destin tragique.
Absolument. Comment ne pas aimer, nous dit Sonia, un homme qui disait je suis contre les femmes, tout contre. Il a dit tellement. Enfin,
oui,
on a fait même des recueils d'aphorismes.
Oh là là, mais j'en ai encore reçu un il y a 3 semaines. C'est inépuisable, Sacha Guitry.
Oui,
il faut adorer les femmes pour pouvoir en parler, puisque parler des femmes, c'est en dire du mal.
N'est-ce pas? N'écoutez pas, mesdames.
Et alors, puisqu'on parle du mariage, il y a des hommes qui n'ont que ce qu'ils méritent, les autres sont célibataires.
Une question de Caroline qui nous demande pourquoi Sacha Guitry n'a pas été mobilisé. Donc, elle veut dire en 1914. Pour quelle raison? Mais précisément
parce qu'il était
comédien aussi. Hein, c'est ça,
oui, mais il a été malade.
Très malade.
En fait, il a voulu se faire réformer en faisant croire qu'il était malade et il est tombé malade.
Il est tombé malade lorsqu'il a fait
l'hospitalisation.
Son service militaire au couvent des Récollets à la gare de l'Est. Il a été perclus de rhumatisme aigu et ça jusqu'à la fin de ses jours et il n'a pas été mobilisé à cause de ça.
Il y aurait beaucoup d'autres femmes à évoquer. Nous avons parlé de d'Arletty, il aurait fallu parler de Gaby Morlaix, par exemple.
De Paris.
D'Anne Fusier-Gir, évidemment de Pauline Carton dans un autre registre. Mais bon,
Jeanne Fusier-Gir était la seule femme dans l'environnement professionnel qui tutoya Sacha Guitry. Ils étaient gamins ensemble, ils s'étaient connus à l'âge de 17 ans.
Et la vente aux enchères a donc lieu à l'hôtel Salomon de Rothschild demain soir à 19h. Merci beaucoup à vous deux. Merci Théodora Mitakis, merci Thierry Geffrotin de nous avoir fait revivre les cinq femmes du Barbe Bleue français.